Avec Monseigneur Jacques Perrier.
Bonjour. Alors, nous arrivons au terme de cette allée de droite de la basilique de l'Immaculée Conception en regardant leurs fenêtres hautes. Comme je l'avais dit dans un entretien précédent, si vous voulez les regarder, il ne faut pas se mettre en dessous, il faut les regarder d'en face. Alors, tout au fond, ça sera la Vierge elle-même. Mais donc, le dernier chaînon, si vous voulez, de cette histoire de l'Église qui commence à l'Annonciation, c'est évidemment la proclamation du dogme lui-même le 8 décembre 1854. Bon, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que le pape avait longuement préparé cette proclamation, qu'il avait interrogé les évêques du monde entier. Donc, il avait tenu une sorte de concile virtuel. Alors, ce n'était pas en visioconférence, mais c'est un peu l'équivalent de l'époque. Et en particulier, l'évêque de Lourdes avait répondu... De Tarbes, sur le territoire de qui il y avait la ville de Lourdes, bon, avait répondu très très favorablement. Je crois même qu'il était intervenu à deux reprises, pas tout seul, mais avec d'autres, pour dire oui, c'est non seulement ce qu'il y avait, est-ce que c'est vrai, voilà, est-ce qu'on peut dire ça, voilà, et puis est-ce que c'est opportun. C'est les mêmes questions d'ailleurs qui se posent pour les béatifications et canonisations. Est-ce que, oui, voilà, donc est-ce qu'on est fondé, etc. Et d'autre part, est-ce que, oui, c'est opportun ou ça risque de faire plus de mal que de bien, et donc il y a pu y avoir quelques réticences du côté de se dire, on ne parlait pas de l'œcuménisme comme aujourd'hui, mais enfin, dire, évidemment, ça va irriter nos frères protestants qui vont trouver qu'on en fait trop pour la Sainte Vierge et que, bon, en rigueur de terme, dogme ne peut pas vraiment s'appuyer sur des paroles très précises. Encore moi, je pense que la salutation du jour de l'Annonciation est porteuse du dogme, opinion personnelle. Et donc, étant donné que pour les protestants, sola scriptura, scriptura sola, on ne prend que ce qu'il y a dans l'Écriture. Donc, bon, bref. Finalement, donc, le dogme a été... Alors, c'est une bulle, bon, Ineffabilis, bon, ineffabilis, vous avez compris, bon, c'est pas compliqué à traduire ça, bon. Et donc, ça rappelle justement tout le programme des vitraux, si vous voulez, enfin, tout ce qui s'est dit, s'est montré, s'est préparé, les textes de tous les temps, etc., qui vont dans ce sens-là, etc., bon, bien, bien. Et puis donc, finalement, on arrive à la définition. Le contenu de la foi, c'est la définition, de façon limitative. Bon, voilà. La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel. Voilà, en quoi qu'on ne sait pas. Vous voyez qu'elle ne dit pas plus. Il ne dit pas pourquoi. Il dit, c'est comme ça. Voilà. L'insistance, en fait, c'est pour dire que, si on peut dire ce privilège, oui, c'est parce que c'est vraiment privé, c'est pas seulement pour quelques-uns, mais vraiment pour elle seule. Bon, ben, c'est une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, donc ce n'est pas un mérite de sa part, parce que vous savez, la doctrine du mérite que les protestants n'aiment pas, donc ce n'est pas un mérite de sa part, c'est la pure gratuité. Et ça a été fait, alors s'il y a des mérites, ce n'est pas les siens, c'est les mérites de Jésus-Christ Sauveur. Donc elle est comprise dans l'acte rédempteur en prévision des mérites de Jésus-Christ. Donc simplement... Ce qui est dit d'elle, à proprement parler, c'est qu'au premier instant de sa conception, elle a été préservée intacte de toute souillure du péché originel. Ce qui laisse entendre qu'elle est du péché lui-même, et on pourrait dire de ses conséquences, de ses traces, voilà, des blessures qu'il laisse même quand il est pardonné. Alors, il y a un très très beau texte qui est du pape lui-même, quand il raconte... Le pape de l'époque racontait pas beaucoup. Quand il raconte son expérience, comme on dirait aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ressenti le jour de la proclamation? Alors il écrit cela à une sœur, sans doute, je pense. Vous croirez peut-être, ma fille, que le pape ait été saisi en extase et que Marie lui soit apparue en ce moment. Eh bien, je n'ai eu alors ni extase, ni vision de cette sorte. Mais ce que j'ai éprouvé, ce que j'ai appris en définissant ce dogme est tel que la langue humaine ne saurait l'exprimer. Quand je commençais à publier le décret dogmatique, je sentis ma voix impuissante à se faire entendre de l'immense multitude qui se pressait dans la basilique vaticane. Et oui, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de sono à l'époque. Bon, et pour se faire... Je connaissais Saint-Pierre de Rome, pour se faire entendre dans Saint-Pierre de Rome. Alors, il dit, ben, j'avais arrivé à me faire entendre. Mais, quand j'arrivais à la formule de la définition, Dieu donna à la voix de son vicaire une telle force et une telle surnaturelle vigueur que toute la basilique en résonna. Et je fus si impressionné d'un tel secours divin que je fus contraint de suspendre un instant la parole pour donner libre cours à mes larmes. Rappelez-vous aussi les larmes de Monseigneur Schaeffer après avoir entendu Bernadette. Bon, sans doute, c'est des générations peut-être moins sentimentales qu'aujourd'hui. En outre, pendant que Dieu proclamait le dogme par la bouche de son vicaire, Dieu lui-même donna à mon esprit une connaissance si claire et si large de l'incomparable pureté de la très sainte Vierge que, abîmé dans la profondeur de cette connaissance qu'aucun langage ne pourrait décrire, mon âme resta inondée de délices inénarrables, de délices qui ne sont pas de la terre et qu'on ne pourrait éprouver qu'au ciel. Aucune prospérité, aucune joie de ce monde ne pourrait donner de ces délices la moindre idée. Et je ne crains pas d'affirmer que le vicaire du Christ eut besoin d'une grâce spéciale pour ne pas mourir de douceur. Ne pas mourir de douceur. Sous l'impression de cette connaissance et ce sentiment de la beauté incomparable de Marie Immaculée. Un témoin mentionne un sentiment universel de joie et il ajoutait ce détail. Pendant la proclamation du dogme, il pleuvait abondamment. Or, précisément, au moment où le pontife prononça les paroles de la définition, le ciel se découvrit et un rayon de lumière vint illuminer le pontife. Voilà, donc un grand jour de joie, 8 décembre 1854, fut un jour de joie populaire, plus que le triomphe d'une thèse théologique. Il faut savoir que l'Immaculée Conception était déjà célébrée depuis longtemps. Donc là, c'est sa forme dogmatique est proclamée ce jour-là. Mais la foi de l'Église, la piété de l'Église s'est formée progressivement et le culte en était tout. On a entendu l'expression de Marie Immaculée. Vous voyez, ce qui est vraiment particulier, j'ai dit dans une émission précédente, c'est est-ce que, elle est née pécheresse, et puis, elle n'a pas été baptisée, mais enfin, l'équivalent, donc elle a été... Ou bien, est-ce que... mais dans ce cas-là, ça risque de laisser des traces, quand même, comme pour nous. Hein. Ou bien, est-ce qu'elle en est indemne dès le départ, et donc il n'y aura pas de traces, voilà. Et c'est, je pense, ce qui est à la source de la foi aussi catholique en l'Assomption de la Vierge Marie, si elle n'y a jamais eu en aucun point de son existence la moindre complicité avec le monde du péché, il ne peut pas y en avoir avec la mort. Voilà. Alors, demain, sur une dernière émission, je leur dirai quelques textes justement à propos de l'Immaculée Conception. Au revoir.